C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe! C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh non, y'a plus de café là.
Attends, on en fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé là.
Les jours.
Ce casque qui marche pas. Mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip. Bip. Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous. On y va. Allez, c'est parti.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elsa.
Bonjour Elsa.
Salut Zed, à la technique. Et ouais, ça y est, c'est l'automne, on en parlait pour les agriculteurs. La pluie est enfin arrivée, donc le ciel est tout sombre. Ça fait grisouiller et frisquer dans le studio de Radio Saint-Taf ce matin. Donc on s'est dit, chers auditeurs, qu'on vous emmènerait bien en voyage. Hein ? Rien de tel pour se réchauffer, non ? Embarquons ensemble dans cette matinale où nous mettrons les voiles plein cap sur Chou et Fadaise, notre revue de presse décortiquée par l'esprit agile d'Elsa Gourmand. Et oui, Elsa, fait pas...
Faut que j'assure, là.
Attention. Vous y apprendrez beaucoup de choses d'ailleurs sur les lobbies de nos dirigeants. Et nous continuerons le périple vers la Chine avec une nouvelle chronique, la parenthèse littéraire. Sylvie Boulard nous fera découvrir un livre de l'auteur chinois Lao Tzu. Puis nous accosterons sur une terre très proche, une terre de lutte et de contestation, berceau de toute une mouvance altermondialiste. Et oui, je suis persuadée que vous aurez reconnu le Larzac. Nous nous réchaufferons avec la prochaine sortie d'un documentaire émouvant et plein d'espoir, Tous au Larzac, projeté la semaine dernière en avant-première à Millau. Vous aurez le plaisir de rencontrer Christian Rouault, le réalisateur, ainsi qu'un ancien de la lutte, Léon Maillet. Puis, parce que le monde n'est pas fait que de bonnes nouvelles, nous aurons droit à une petite couille dans le potage. Mais avant de partir pour des terres lointaines, préparons nos bagages sur cette terre de départ. Voyage, voyage. Je suis sûre que se cachent parmi vous de grands fans des années 80, pas vrai ? Je pense particulièrement à Audrey, je suis persuadée qu'elle danse en ce moment en haut à la radio. Bon Elsa, tu es prête ?
Ouais, ouais, ouais.
On met les voiles pour la revue de presse. Qu'est-ce que tu nous... Où tu nous emmènes ce matin ?
Au pays des copains. Hein, d'ailleurs, cette revue de presse aurait pu s'intituler « Les copains d'abord ». Mais ce serait faire injure à Brassens. Les copains dont il va être question maintenant n'ont pas la bonhomie de ceux du chanteur à la pipe. On commence avec l'hebdomadaire Marianne qui nous propose un dossier sur la République du copinage, titre du livre de Vincent Nouzille, qui est l'un des meilleurs spécialistes des réseaux du pouvoir français. Aucune confrérie n'y manque, il y a des inspecteurs des finances, des Corses, en passant par les francs-maçons, des journalistes. Mais il y a aussi le retour en force des réseaux religieux et l'apparition de nouveaux réseaux, comme des réseaux de femmes, de militants de la diversité ou encore de gays. Les amis de Carla Bruni ont aussi dégoté des postes intéressants hein, grâce à leur lobby. On peut citer Philippe Val à France Inter, bah ouais, c'est un grand copain de Carla.
Comme c'est décevant.
Frédéric Mitterrand, grand copain de Carla aussi. Alors lui, il a d'abord bénéficié de la Villa Médicis. Et puis maintenant, il est au ministère de la Culture.
Ouais, lui, ça m'étonne moins, bizarrement.
Ouais. Il est content. Il aimerait bien rester. Je ne sais pas si ça va être possible. Bref, à ce constat peu reluisant s'ajoute une nouveauté. Certains ont fait du copinage et du piston une source de revenus fort lucratif. Des professionnels de l'influence qui naviguent entre fonctions gouvernementales et électives, conseils privés et lobbying. Ces gens-là monnaient leur carnet d'adresses. Ils peuvent ainsi vous avoir un rendez-vous, chers auditeurs et auditrices, avec un secrétaire d'État pour la modique somme de 20 000 à 50 000 euros. Avec un ministre important, c'est plus cher. Hein, entre 80 000 et 100 000 euros. Quand même, il faut les avoir. Même, ça peut monter jusqu'à 200 000 euros, ces petites magouilles. Et c'est un marché en pleine expansion qui s'accorde, il faut le dire, assez mal avec la notion de démocratie. Ils sont de plus en plus nombreux à faire passer leurs intérêts particuliers avant l'intérêt général. Et si cette imbrication du pouvoir et de l'argent n'est pas le monopole de la droite, écrit Vincent Nouzille, le sarkozysme aura constitué un accélérateur décisif. Mais bon, il faut être honnête, le copinage, ça peut quand même être utile. J'ai dégoté un petit article dans Politis, un article assez parlant. La Sarkozy protège ses arrières. La République irréprochable de Sarkozy bat sérieusement de l'aile. Le garde des Sceaux, Michel Mercier, veut nommer son propre directeur de cabinet, François Molin, au poste de procureur de la République de Paris. Là où l'affaire Karachi menace quelques personnalités très proches de Sarkozy. Et quelques semaines plus tôt, il n'en est pas resté là, le même Mercier avait proposé de caser Martine Valdès-Boulouk, autre amie fidèle du pouvoir au poste de procureur général de Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe à ton avis ?
Copinage, copinage et après ?
Hein, à Bordeaux, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est là où sont instruites les délicates affaires dites Bettencourt. Ah, voilà où il y a quand même encore des copains de Sarkozy qui trempe. Ces grandes manœuvres politico-judiciaires sonnent comme un signal très inquiétant de verrouillage. En cas d'échec de la droite en 2012, nous dit Politis, mieux vaut prévenir que de se retrouver devant les tribunaux. Mais bon, rassurez-vous, ces pratiques ont cours aussi au Royaume-Uni. C'est Courrier International qui propose un article de The Independent intitulé « Les lobbies, le ministre et son témoin de mariage ». Donc dans cet article sont analysés les liens entre les groupes de pression et le gouvernement britannique au lendemain de la démission du ministre de la Défense, Liam Fox. Donc Liam Fox, il avait un copain qui avait été aussi son témoin de mariage, un certain Adam Verity. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça parce que c'est en anglais. Alors, bref, ce dernier entretenait des liens avec des groupes aux allures d'agences de contre-espionnage pro-israélienne ou encore proches des militants du Tea Party aux États-Unis. Le Tea Party, c'est un mouvement ultra-conservateur. Et les représentants de ces groupes ont pu bénéficier de contacts privilégiés avec le ministre de la Défense. Un hasard sans doute. Bref, certains au Royaume-Uni réclament que toutes les activités, conversations et rencontres des politiques soient soumises à un contrôle plus strict. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Et puis, il y a l'Europe. Alors là, l'Europe, c'est magnifique. C'est quelque chose. Hein. C'est encore Marianne qui nous régale d'extraits d'un livre qui s'appelle « Le doux monstre de Bruxelles » ou « L'Europe sous tutelle ». C'est un livre de Hans Magnus Enzensberger, un Allemand. C'est un écrivain très connu là-bas. Je tourne en même temps les pages. Et cet écrivain allemand nous fait le portrait sans concession d'une bureaucratie européenne coupée de ses citoyens. La Commission ne peut pas s'empêcher de se mêler de la vie quotidienne des Européens avec un champ de compétences très large. Donc on peut citer vite fait champ de compétences politico-économique, sanitaire, industriel, tout ce qui touche aux régions, à la formation, aux retraites et à la jeunesse, à l'environnement, au climat, à l'énergie, à la recherche, aux technologies, à la protection des consommateurs, à l'immigration. Et asile, droit civil, droit pénal, etc., etc. Et certaines directives ubuesques sont dues à la pression d'intérêts particuliers. Il faut dire qu'on estime à 15 000 le nombre de lobbies ou lobbyistes qui hantent les couloirs de la Commission européenne.
C'est marrant que tu dises couloir parce que lobby, ça vient d'un terme anglais, ça signifie couloir.
Ah ben bah, parfait, je ne savais pas. Merci pour cette explication sémantique. Et donc, je vais vous donner quelques exemples succulents des délires bruxellois, piochés donc dans ce livre de Hans Enzensberger. Alors, par exemple, on a pondu un règlement pour ceux qui travaillent avec un marteau-piqueur et qui se voient donc prescrire des valeurs limites pour les vibrations des mains, des bras et du corps entier. Le fromage aussi, si un fromage a mûri dans la saumure, cela doit figurer sur l'emballage. Mais il y en a qui sont encore, qui sont vraiment rigolotes. Il y a le cas des concombres. Alors, le règlement communautaire 1677-88 prescrivait que ces cucurbitacées, si elles prétendaient être commercialisées dans la catégorie extra, ne devaient pas présenter une courbure excédant une hauteur maximale de l'arc, 10 mm pour 10 cm de longueur du concombre. Bon, ils ont aussi pondu des directives sur les choux, sur plein de légumes.
Ils ont vraiment que ça à faire. Hein.
Ben écoute, faut croire. Et il y en a dans ces directives qui ont été approuvées et défendues par des syndicats de certains pays agricoles en particulier. Et puis, moi j'aime bien le règlement 2396-2001 qui prescrivait que les poireaux doivent présenter une coloration blanche à blanc verdâtre sur au moins un tiers de la longueur totale ou la moitié de la partie enveloppée. Toutefois, pour les poireaux primeurs, la partie blanche à blanc verdâtre doit avoir au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée. As-tu compris ?
Absolument pas.
C'est pas grave. Il y en a une autre, c'est sur la longueur, la taille minimale des préservatifs, dont la longueur ne doit pas s'écarter de plus de 10 mm et la largeur de plus de 2 mm des valeurs nominales. Bon, hein. Alors il y en a encore d'autres, qu'est-ce que je peux citer ? Oui, le règlement sur les ampoules électriques. Alors il faut savoir que ça n'a pas été introduit pour des raisons environnementales, mais selon la volonté des industriels concernés. Donc voilà, il y a là, au niveau européen aussi, des lobbies qui font leur boulot, hein. Ils feront pression pour défendre leurs intérêts particuliers. Le gros hic dans tout ça, c'est que de nombreux observateurs pensent que l'influence de ces lobbyistes est plus grande que celle des députés européens. Voilà, c'est dommage. Alors, j'ai encore un peu de temps, Elsa ?
Oui, tu peux encore.
Je peux encore ? C'est bien. On passe à un autre sujet. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais être sous influence... Ça aussi, ça existe, même s'il ne s'agit pas de copinage à proprement parler, peut s'avérer désastreux. Alors là, c'est l'Humanité Dimanche qui s'interroge. Mediator, pourquoi des médecins en ont prescrit pendant 33 ans ? Naïveté, ignorance, inconscience ? Jacques Servier, grand copain par ailleurs de Sarkozy, hein, au point de recevoir de ses mains la grande croix de la Légion d'honneur, a rendez-vous avec la justice le 9 novembre. Il tente de faire porter la responsabilité des morts dues au Mediator aux médecins. Ces médecins qui sont aujourd'hui particulièrement silencieux et tétanisés par crainte sans doute des suites juridiques. Alors quelques-uns de ces médecins ont témoigné et ont dit qu'ils avaient prescrit ce médicament en toute confiance. Alors quelques explications à cela. Il y a un médecin généraliste de Seine-Saint-Denis qui explique « Les médecins ont coutume de croire qu'on leur a enseigné la vérité sans discussion possible. Rien ne les prépare à l'exercice d'un esprit critique et surtout pas à l'égard des mandarins. » Et puis surtout, il y a leur formation qui est entre les mains des labos pharmaceutiques. Labos pharmaceutiques qui sont omniprésents dans les stages hospitaliers. Ils vont jusqu'à payer des fois les pots de départ des internes. Quant à la formation professionnelle des médecins, elle s'effectue sans contrôle ni validation et consiste souvent en réunions, séminaires ou congrès organisés par l'industrie pharmaceutique. Et puis les labos financent également la recherche des spécialistes hospitalo-universitaires et ils ont prise aussi sur l'information médicale jusqu'au célèbre Vidal, le dictionnaire de référence des médicaments, et aussi via les visiteurs médicaux. Voilà. À cela s'ajoute bien évidemment l'extinction de la recherche publique, le financement de l'AFSAP, donc l'Agence française de sécurité sanitaire chargée de délivrer les autorisations de mise sur le marché, donc son financement par l'industrie pharmaceutique. Alors là, elle a été un peu nettoyée, hein, l'AFSAP, je sais pas, ils l'ont retoquée un petit peu. La pharmacovigilance, 1, 2, 3, la pharmacovigilance abandonnée aux firmes, l'absence de transparence. Finalement, c'est tout le système du cabinet médical au pouvoir public en passant par les hospitalo-universitaires qui a poussé à la faute. Résultat, entre 500 et 2000 morts.
Ça fait peur, hein. Vraiment, ça fait peur. Ben, merci Elsa pour cette revue de presse, bien positive comme il faut. Donc poursuivons le périple avec les Oufris Maracas.
Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes de ton corps, une à une dandinée sur le lit en ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, la note est amère, et ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps en corps pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corsé. Et ta mère, et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibés de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, et ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, et qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité. Et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Combien de temps encore vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de pourfendre à l'âge? Tu le voulais morné, seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer? Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire, je veux juste oublier quand tu t'as fait prendre à toi de crier comme ta mère, comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes de ton corps, une à une d'ordinaire sur le lit à ressort que je t'avais offert, notre amour est bien mort, elle a noté ta mère.
Les Oufris Maracas, c'est un CD de la semaine que vous pouvez retrouver sur notre site internet et cette chanson s'appelle « Et ta mère ». Voici venu le temps d'une toute nouvelle rubrique au joli nom de parenthèse littéraire. Sylvie Boulard nous emmène à la rencontre d'un livre.
Pour entamer cette série de chroniques, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour commencer, tant qu'à faire, autant tout de suite commencer par du lourd, par du chef-d'œuvre. Donc, je vais vous parler d'une série de trois romans, une saga d'un romancier chinois qui s'appelle Lao Tzu. Cette saga s'appelle « Quatre générations sous un même toit ». Alors Lao Tzu, pour faire un petit peu dans le culturel, c'était donc un romancier chinois qui était né en 1899 et qui est mort suicidé par les gardes rouges en 1966. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a vécu les transformations de la Chine, qui a suivi les transformations, qui a soutenu Mao et qui, au moment de la révolution culturelle, finalement représentait un peu trop le vieux monde et qui donc n'a pas survécu à ces moments difficiles. Alors, Quatre générations sous un même toit, c'est donc une saga qui raconte l'occupation de Pékin par l'armée japonaise. Bon, ça, je pourrais dire que c'est presque anecdotique parce qu'en fait, ce roman, c'est le roman de la dictature, c'est le roman de l'oppression et puis c'est aussi le roman de la résistance. Et c'est ça qui me paraît le plus essentiel dans ce livre. Ce roman raconte l'histoire d'une famille, de plusieurs familles et à l'intérieur de ces familles, de plusieurs destins entremêlés. C'est donc à Pékin, au moment de l'invasion japonaise, une famille qui est représentée par son chef, le grand-père. Et ce grand-père a plusieurs fils et chaque fils aura un destin tout à fait particulier. Alors le héros est un professeur qui représente un petit peu Lao Tzu, puisque Lao Tzu était aussi lui professeur d'université. Et ça raconte un petit peu la façon dont chacun survit à cette occupation et dont chacun s'accommode. Donc il y a ceux qui vont tout simplement collaborer comme ça s'est vu dans beaucoup d'endroits. Et puis, il y a ceux qui vont se rebeller, notamment le plus jeune fils qui, lui, va rejoindre les rangs de la résistance. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Ça montre un peu tous les personnages et notamment le personnage donc, du héros qui, lui, est pris entre différentes positions. C'est-à-dire qu'à la fois, il est très proche des traditions, donc il a du mal à se rebeller. Et puis, en même temps, face à tout ce qui se produit, tout ce qui arrive, et il y a des scènes qui sont absolument terribles. Bon, après, on peut dire que ça s'est passé dans beaucoup d'endroits du monde, mais vraiment, ce qui s'est passé pendant cette occupation japonaise est absolument terrifiante, comme ça a pu l'être à d'autres endroits du monde, comme je le disais. Dans 4 générations sous un même toit, on visite un peu toutes les strates de la société. Donc vous allez avoir le tireur de pousse-pousse, vous allez avoir donc le professeur d'université, mais vous aurez aussi le barbier, et puis petit à petit, le petit politicien qui monte dans la hiérarchie. Et ça nous permet d'avoir quand même un panorama de cette société chinoise qui, pour nous, est quand même très, très éloignée. Et en même temps, ce qui fait l'universalité de ce roman, c'est qu'on se retrouve à l'intérieur de tous les personnages. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a énormément d'humour. C'est-à-dire que malgré le tragique des situations, notamment dans le dernier tome, hein, puisqu'il faut quand même savoir que cette saga fait 1900 pages, donc on la trouve en folio sous 3 tomes. Dans le dernier tome, c'est beaucoup plus sombre, hein, puisque c'est vraiment à la fois la révolte et puis le durcissement de l'occupation japonaise. Mais sinon, tout le livre est traversé par une espèce d'humour, un humour tranquille qui, pour moi, mais là, c'est très subjectif parce que je ne connais pas du tout la société chinoise, a à faire avec le caractère chinois, c'est-à-dire ce côté un peu la zénitude et en même temps, voilà, une certaine façon d'accueillir les différents événements de façon à la fois simple et puis vraiment avec beaucoup de recul et puis beaucoup d'humour. Donc je vais vous lire un très court passage où justement il parle de cette oppression et vous allez voir ce qui est intéressant, c'est qu'il en fait une lecture que moi je trouve assez originale, assez spéciale, mais qui donne à réfléchir. Donc je vais prendre ma plus belle voix, je vais essayer de parler lentement pour vous faire cette lecture, c'est très court, hein. Ceux qui agressent les autres, les dominent, nuisent aux autres, ne peuvent qu'agir à l'aveuglette. Ils n'ont pas d'autre solution. L'agression elle-même est désordre, car l'agresseur ne voit que lui-même et invente, en suivant sa propre idée, le visage que doit avoir l'agressé. Ainsi, quelle que soit la minutie du calcul de l'agresseur, il rencontrera inévitablement des échecs et commettra des erreurs. Quant aux rectifications, il ne peut les apporter qu'en suivant une fois de plus ses partis pris. Et plus il corrige, plus il s'enferme dans l'erreur, dans le désordre. Les petites révisions, les petites rigueurs ne peuvent corriger des prémices fondées sur l'erreur. Ce qui est intéressant, c'est que quand il parle du phénomène de l'oppression, il ne se met pas du côté de l'oppressé. Bon, ce qui paraît presque le plus simple, mais il se met du côté de l'oppresseur. Il démonte un peu cette mécanique. Quand on lit ça, on peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé au moment de la révolution culturelle. Finalement, quand tous les intellectuels, tous les gens qui étaient des professeurs d'université, en fait, la révolution chinoise a considéré que ces gens-là ne pouvaient pas changer. Ils partaient d'un parti pris qui était, effectivement, ils sont comme ça, ils changeront pas. Et c'est comme ça qu'il faut à tout prix les éliminer pour pouvoir avancer. Et c'est ça que je pense qu'il introduit un peu dans ce cours passage. Alors pour terminer un petit peu, pour vous donner envie de lire, voilà donc 3 choses un peu, ce qu'on pourrait dire, c'est à la fois un très grand roman, une grande saga comme on peut les aimer, comme on en connaît sur d'autres continents, donc on peut s'attacher aux personnages parce que ce sont des personnages qui sont présentés dans leurs multiples facettes. Il y a à la fois aussi, il y a deuxièmement beaucoup beaucoup d'humour, une façon de rentrer dans la civilisation chinoise très particulière, et puis vraiment une dénonciation de ce que peut être la dictature, de ce que peut être l'asservissement d'un peuple par un autre. Ça, quatre générations sous un même toit de Lao Shi. Et c'est publié aux éditions Folio Gallimard. En vente dans toutes les bonnes librairies.
Donc merci à Sylvie Boulard pour cette parenthèse littéraire. Après la Chine, envolons-nous pour l'Afrique. Une petite pause musicale avec le groupe Tsanga.
Du monde, quitter mon rivage natal était inévitable. Mais l'on n'oublie jamais l'origine et ses attraits. Ma famille restait là-bas, l'envie parfois d'être dans leurs bras. Mais l'on n'oublie jamais l'origine et ses attraits. Ma famille restait là-bas, être près de toi, maman, papa. Maman, papa, je vous serrerai dans mes bras. Je trace mon chemin du jour au lendemain. Oh mon Dieu, je trace mon chemin dans un pays lointain. Je trace mon chemin dans un pays lointain. Oh mon Dieu.
Ndima barani boho Usafiri kafirini tiwono esati roro Mikabala pia na unisiwaya sana Matarajio ya pia sawabini Sawabu suiha ikitwajibu Salama na thawabu Mungu adivi jawabu Vuke mahaba malakuni amini Kula mali binia nisinia Rahmani Rahimu Bio risitaha pia shitu moja Mudu au mkundu I zuzi ya moja Dunia kamili Wastaraba ta wakoni Chongo moja Nyangu msapere atashikoni Dua amba suku iyo fuke heude Babusi na miki Zemtia analeo
Les voyez-vous tous ces humains Que je regarde pour vous Les voyez-vous Les voyez-vous Ils sont un peu comme nous Cherche la paix et l'amour, les voyez-vous, les voyez-vous, sur cette terre, un peu nos frères, les voyez-vous, maman, papa, les voyez-vous, maman, papa, un peu comme nous. Je trace mon chemin du jour au lendemain. Oh mon Dieu, je trace mon chemin dans un pays lointain. Oh mon Dieu, je trace mon chemin du jour au lendemain.
Sangha, les gens du monde, également un CD de la semaine. Donc la rencontre, le partage. Eh bien, j'ai rencontré un homme comme ça la semaine dernière. Je ne sais pas si tu étais au courant, Elsa, il y avait un colloque sur l'anniversaire, les 30 ans de lutte du Larzac à Millau. Et jeudi soir, il y avait un documentaire. Donc j'ai rencontré Christian Rouault, c'est le réalisateur. Il est parti à la rencontre des gens du Larzac, de Marisette, Pierre, Christiane, Michel, Léon, José et d'autres. Ensemble, ils ont parlé lutte, résistance, solidarité et action non violente. Attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle lutte, puisque celle du Larzac a duré 10 ans. 10 ans d'action et de résistance par la non-violence, ce qui est quand même assez fabuleux, quoi. Ces rencontres ont donné donc naissance à un documentaire de 2 heures qui s'appelle « Tous au Larzac », qui est passé à Cannes cette année hors compétition. C'est un vrai bijou. Il est vraiment... Ce film, est... ce documentaire, il est magnifique. Donc 2 heures, tu les vois pas vraiment passer parce que c'est... Moi, ça m'a vraiment, vraiment émue.
Tu étais émue quand tu nous en avais parlé en revenant.
Il m'a vraiment touchée, quoi. Donc jeudi, je me suis rendue à Millau pour sa projection en avant-première. Il y avait 400 personnes, 359 de places vendues et une cinquantaine d'invités pour le film. Donc il y avait 3 salles pleines à craquer. Donc pour le débat, les gens, ils ne pouvaient même pas tous rester à la fin, tellement il y avait du monde. Donc ça a bien, bien marché. Donc j'ai du mal à parler de ce court-métrage, mais je vais laisser Christian Rouault tout de suite l'interview.
C'est pas un film militant dans les sens classiques comme on le connaît, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, c'était aussi un film très poétique. Moi j'ai envie de vous demander d'où vous vient cet amour des gens.
Moi de toute façon je sais faire des films qu'avec des gens que j'aime. Je pourrais pas faire des films sur l'ennemi, je pourrais pas faire des films sur le Front National. Donc voilà, souvent ce qui me motive c'est effectivement que je tombe amoureux de quelqu'un, que j'ai envie de le montrer, de le faire connaître à d'autres. Et là dans ces luttes-là, aussi bien les Lips que le Larzac, ces luttes-là produisent des gens formidables, fabuleux, quoi. Des fois on me demande comment ça se fait que des ouvriers parlent si bien, ou comment ça se fait que des paysans parlent si bien. Bah, ils sont juste comme la lutte les a faites. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup appris, on parlait d'intelligence collective tout à l'heure, ils se sont frottés aux autres, ils se sont affrontés, ils se sont affrontés entre eux, etc. Et peu à peu, ils ont beaucoup parlé aussi. Hein. Pendant 10 ans, ils ont passé leur temps à tchatcher, à discuter. Donc voilà, c'est des personnages aujourd'hui qui sont debout sur leurs 2 pieds et qui sont magnifiques, quoi.
Vous avez été dans le corps enseignant pendant pas mal de temps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des films? Pourquoi ce changement de vie?
Bon, je crois que j'ai toujours eu envie de faire des films sans le savoir. Quand j'étais gamin, j'étais dans un milieu très populaire. Mon père conduisait les trains et tout ça, donc il n'y avait aucune chance de devenir jamais cinéaste. Donc je suis devenu prof, mais dès que j'ai été prof, j'ai fait des films avec mes élèves. J'avais une petite caméra Super 8, je faisais des films avec les élèves. Après, quand la vidéo est arrivée, j'ai commencé à faire des films en vidéo et tout ça. Bon, ça me travaillait, quoi. Et j'ai enseigné 10 ans. Au bout de 10 ans, j'ai fait une formation. Dans l'intérieur de l'éducation nationale, formation d'un an à l'audiovisuel. Et je suis devenu formateur des profs, ceux qui voulaient faire l'audiovisuel. Je faisais de la formation pour les profs qui voulaient faire l'audiovisuel avec leurs gamins. Et puis après, j'ai commencé à faire des films pour le système éducatif. Et puis à 45 ans, je me suis dit, si je pars pas maintenant, je partirai jamais. Donc j'ai démissionné et puis je suis devenu saltimbanque, quoi.
D'où vous vient votre côté militant?
Moi, j'avais 20 ans en 68, hein, donc je suis un peu tombé dedans, comme beaucoup de gens. J'étais étudiant à la Sorbonne, en plus, donc j'étais aux premières loges. Et je suis de ceux qui n'ont pas supporté que ça s'arrête comme ça, quoi. Je me suis mis à militer dans les années 70, dans tous les mouvements qui pouvaient exister, sur la question de l'avortement, pour les femmes, sur le nucléaire, déjà, à l'époque, sur l'écologie, sur la psychiatrie, sur un tas de domaines où ça bougeait tout le temps. Et chaque fois qu'il y avait un problème, on créait un comité, on se battait, etc. Donc, c'est ma culture politique, c'est les années 70. Et c'est vrai que j'ai aussi envie de raconter ces années-là parce que j'en ai un peu marre de la façon dont on présente toujours mai 68 à la télé, comme un espèce de truc qui s'est passé à Paris, juste entre des étudiants qui ont jeté des pavés sur les keufs, puis après ils sont rentrés dans leur grande maison, fumer des joints et tout. Enfin bon, c'est pas ça mai 68, c'est tout ce qui s'est passé après, c'est comment une génération entière s'est embarquée dans tout un tas de mouvements. Et c'est pas pour rien que la droite au pouvoir aujourd'hui essaie de dire que tous les maux de la société viennent de mai 68, comme on a essayé aussi de dénigrer l'œuvre du Conseil national de la résistance. C'est exactement le même mouvement réactionnaire, quoi. Donc moi je pense qu'il faut au contraire dire ce que les années 70 nous ont apporté et peuvent encore nous apporter aujourd'hui dans les luttes. Il y a vachement à apprendre de cette lutte du Larzac sous mille aspects, quoi. Et si les jeunes sont émus et se font embarquer par le film, à mon avis c'est pour cette raison-là. Parce que voir des gens de cet âge-là raconter comment ils ont bougé, comment ils se sont battus, comment ils ont été tenaces, comment ils ont eu cette espèce d'imagination incroyable, ça donne la pêche, quoi.
Est-ce que vous êtes un nostalgique des années 70 ou est-ce que vous avez espoir à de nouveaux mouvements?
Je ne suis pas du tout nostalgique des années 70. Je ne fais pas du tout des films pour les gens à cheveux blancs qui vont se reconnaître en disant comme c'était génial à cette époque-là. C'est exactement le contraire. Et moi, je pense que les jeunes, ils ne sont pas plus cons qu'on était. Hein, donc ils vont inventer leur forme de lutte. Ce ne sera pas les mêmes que nous, évidemment, parce que la situation a changé, les syndicats ne sont plus les mêmes, les partis politiques ont évolué, enfin tout bouge, le monde bouge très vite. Mais est-ce qu'on pouvait imaginer les indignés? Est-ce qu'on pouvait imaginer les manifs à Wall Street? Est-ce qu'on pouvait imaginer le printemps arabe? Moi, je crois que la génération de nos petits-enfants, enfin ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ils vont trouver des moyens de ne pas supporter l'insupportable, parce qu'on est dans une société insupportable actuellement. C'est quand même terrible tout ce qui arrive là. Enfin, le fait que les jeunes diplômés ne trouvent pas de boulot, ne trouvent pas de logement, enfin, on est dans des sociétés démentes, quoi, avec cette espèce d'enrichissement incroyable des riches et l'appauvrissement des pauvres. Donc il va falloir taper là-dedans. Et moi, je suis persuadé que voilà, les jeunes vont le faire très très bien.
Est-ce que vous allez garder un lien avec les gens du Larzac?
Oh bah oui, quand on a vécu ça avec des gens, on reste amis à la vie, hein, c'est clair. En plus, ils accompagnent le film avec moi. Et quand je ne peux pas aller en projection, des fois, ils y vont seuls. Donc, ils se sont approprié le film. Et souvent, on est ensemble quoi, pour défendre le film. Et ça, c'est absolument formidable.
On voit les saisons qui défilent dans le film. 6 mois de montage. Combien ça vous a pris en tout, ce projet?
3 ans. 3 ans, c'est-à-dire que je suis venu les voir la première fois en juillet 2008. Et le film sort le 23 novembre prochain, quoi. Donc, ouais, c'est un très long processus. C'est-à-dire qu'il y a le temps de l'écriture, d'abord, il faut écrire le film. Et puis après, il faut le temps de trouver l'argent, etc. C'est un long processus.
Donc, Christian Roux a fait d'autres films et documentaires militants, notamment sur les usines LIP et le monde paysan. Donc voilà, comme il l'a dit dans l'interview, il y a beaucoup, enfin tous les gens filmés dans le film l'accompagnent dans ses projections. C'est des avant-premières, il sort le 23 novembre. Et parmi les gens présents, les anciens du Larzac, on va écouter quelqu'un que vous reconnaîtrez sûrement.
Alors Léon Maillet, vous faites partie des gens qui ont été interviewés. Comment ça s'est passé le tournage?
Oh ben c'est simple, c'est comme si on était en garde à vue dans un commissariat, mais là on avait une caméra devant nous. Et le gars nous a posé, Christian Roux nous a posé à tous les mêmes questions. Et puis on ne savait pas ce qu'auraient répondu les copains, donc on a répondu de notre mieux. Et en fait, au montage, il a pris les mieux des uns et des autres, et puis il en a fait un très joli film. Voilà. On a l'impression que pour les gens, ce film ouvre un grand album de famille. En fait, ce film, c'est un film d'actualité, parce que, bon, on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit, indignez-vous, hein. Et bien en fait, on parle des indignés, mais dans ce film, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est indigné parce qu'on n'avait pas été respecté, on voulait nous mettre dehors. On a fait comme a dit un pape en disant « n'ayez pas peur », mais en fait, on n'a pas eu peur. Et puis je crois que c'était François Mitterrand qui avait dit « là où il y a la volonté, il y a le chemin ». On voulait gagner le Larzac, et bien on y est arrivé à le gagner. Et quelqu'un a dit aussi « le Larzac est une lutte extraordinaire menée par des gens ordinaires ». En fait, c'est vrai. C'est preuve que tout le monde, il peut y avoir des Larzac un peu partout, quoi. Quand ça va dit dans le film, si on jette une pierre à l'air, fatalement, elle va nous tomber sur la tête, mais on n'est pas obligé de jeter la pierre à l'air.
Qu'est-ce que ce film il a créé entre vous de nouveau?
Ben, ce film il nous a fait ressortir, il nous a fait reprendre la voiture pour aller le commenter dans les salles. Et ça nous remue un peu les tripes. Ça nous rappelle 10 ans de notre vie compliquées, houleuses. Et ces 10 ans, ils sont passés dans la tranche 30-40 ans, ça fait déjà vu. Hein. On est content d'avoir vécu le Larzac et content d'avoir participé à ce film pour tous les gars du Larzac. Bon, nous, on est 9 à parler, on ne peut pas parler peut-être à 40, mais c'est le film du Larzac. Ce matin, je lisais un proverbe qui est très bien en disant « Seuls les poissons morts descendent le courant, les vivants le remontent ». En fait, nous, on le remonte parce qu'on va souvent contre courant, mais on est bien content. On est content un petit peu de secouer le cocotier.
Donc pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore reconnu, il s'agit de Léon Maillet. Voilà, vous pouvez aller voir tout sur Larzac, même je vous conseille d'y aller, c'est poétique, vous allez voir les paysages, les témoignages, il y a énormément de cœur dans ce film, c'est pas du tout, je le redis, un film militant dans le sens classique du terme, c'est sublime. Donc le 23 novembre, dans un petit mois, n'est-ce pas Elsa, tu vas y aller?
Ah ouais, je vais y aller, j'espère qu'il va sortir au cinéma de Sainte-Afrique.
On peut aller faire une petite manif devant pour...
Il faudrait.
Bon, on va faire une petite pause musicale avec justement des chants révolutionnaires, c'est les Grandes Bouches.
Que tout a commencé, il y avait une usine et les gars y travaillaient. Mais en écoutant la bourse, les patrons décidaient que l'usine était moche et qu'il fallait tout brader. C'est pas qu'elle marchait pas, c'est que tous les rentiers y trouvaient que 10%, ça faisait pas assez. Ils ont loué des vigiles et des chiens qui aboyaient. Ils ont pris des ficelles, ils ont tout barricadé. Tout autour de l'usine, on ne pouvait plus passer. Ils voulaient prendre les machines, ah quelle drôle d'idée. Les Molex, ils ont vu ça, ils les ont empêchés. En leur collant une grève, les patrons l'ont pas volé.
Et la grève a commencé. Et la grève a commencé. Et la grève a commencé.
Allez! village, les patrons ont appelé le cabinet et l'entourage de monsieur le préfet.
Lui c'est l'homme qui vient du ciel, il va nous sauver. Lui c'est l'homme providentiel, je m'en vais l'appeler.
Le préfet nous a dit, nous allons discuter. Mais les vigiles étaient là et on n'a pas pu rentrer. Le brave homme, c'est étrange, n'est pas venu nous chercher. C'est quand même bizarre, il a dû oublier.
La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué.
Monsieur le préfet, au ministre de l'outillage a téléphoné.
Lui c'est l'homme qui vient du ciel, il va nous sauver. Lui c'est l'homme providentiel, je m'en vais l'appeler.
On a bien vu le ministre, il nous a écoutés. Tout en remuant la tête, il avait l'air embêté. Oh mes pauvres amis, je vous comprends, vous savez. Mais je ne peux rien y faire, car c'est la fatalité.
La 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 la, et la guerre a continué. La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué.
Allez, continue, hop hop
hop. Et sentimental.
La grève va continuer, ah, la 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 la, et la grève va continuer, ah, la 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 la, et la grève va continuer, ah, la 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 la, et la grève va continuer.
N'écoutant que son courage, le ministre a décidé d'aller voir le président et de lui raconter.
Lui c'est l'homme qui vient du ciel, il va nous sauver. Lui c'est l'homme présidentiel, je m'en vais l'appeler.
Le président nous a dit, ah ça ne peut plus durer. Vous allez voir ce qu'on va voir, nous on va moraliser. Devant les télévisions, il nous a déclaré, il faut faire une commission avec monsieur le préfet.
La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève va continuer. La 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 la, et la grève va continuer. La 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 la, et la grève va continuer. La 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 la, la 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 la.
Les
Molex, ils ont vu ça et ils ont pas lâché.
Ce que tu lâches au patron, ils te le rendront jamais.
Ce que tu lâches au patron, ils te le rendront jamais.
Eh oui, c'est les grandes bouches avec un chant contestataire. Ça fait un petit peu penser à la compagnie Joli Mom, mais plus côté masculin.
Ouais, peut-être, ouais.
Je sais pas si tu connais trop, ça ressemble à ça. Et bien maintenant, chers auditeurs, une petite couille dans le potage.
La couille dans le potage. La couille dans le potage.
Et plouf, la couille dans le potage, elle est tirée du canard enchaîné. On va parler de Bernard Tapie. Bernard Tapie qui, si vous vous souvenez bien, a touché plus de 250 millions d'euros dans l'affaire Adidas. Grâce au gouvernement quand même, hein, qui a tout fait pour qu'il touche ces sous-là. Parce que c'est un pote encore, pote à Sarko,
encore
tout
les
ça.
Potes, ouais.
Voilà. Et bon, pour calmer le jeu, Christine Lagarde, qui à l'époque était ministre de l'économie, avait assuré que le magot serait sévèrement raboté par le fisc. En gros, il devait payer 70 millions d'euros d'impôts, Bernard.
Mais le fisc, ça serait pas des copains des fois ?
Et non, mais non, parce que c'est con, parce que Bernard, il a trouvé un truc pour échapper à l'impôt.
D'accord.
Ouais. Il a, à la fin de 2010, donc, la quasi-totalité de sa fortune qu'il avait placée dans la société GBT a été transférée vers une holding belge créée de toutes pièces. Alors c'est vachement intéressant parce qu'en Belgique, les plus-values des entreprises échappent à toute imposition. Voilà. Et donc le gonflement de GBT Holding, qui est passé d'un modeste capital de 20 000 euros lors de sa création, le 20 octobre 2010, à 215 millions le 24 décembre suivant, a permis à Nanar d'échapper à l'impôt. 70 millions.
Mmh. Hein. C'est beau. Mmh.
Voilà.
Ça fait rêver, hein.
Bon, non, ça m'en colère plutôt, non.
Non, mais il fait beau vivre chez les bisounours, quoi.
Voilà pour la couille.
Ben merci Elsa. Il va être temps de nous quitter, chers auditeurs. On espère que vous avez apprécié cette croisière ensoleillée avec les deux Elsa au micro, Z à la technique. Une petite phrase, Émile Zola disait que rien ne développe autant l'intelligence que les voyages. Alors on espère que voyager avec nous, ça vous a apporté un petit peu plus de ça. Dans cette matinale, vous avez pu découvrir ou redécouvrir Voyage Voyage de Désirless, notre charmante revue de presse Chou et Fadaise par Elsa Gourmand, Zoufris Maracas avec la chanson Et ta mère, ça c'est un CD de la semaine, la chronique Parenthèse littéraire de Sylvie Boulard, le groupe Tsanga, Les gens du monde, ça aussi c'est encore un CD de la semaine. Une interview du réalisateur Christian Rouault et de Léon Maillet dans le cadre de la sortie en avant-première du documentaire Tous au Larzac. Et Les grandes bouches avec La Molex, également CD de la semaine que vous pouvez donc retrouver sur le site internet. Voilà, et la couille dans le potage hein, d'Elsa aussi, ne pas oublier, concoctée par Elsa Gourmand. Voilà, une petite annonce, ce week-end, enfin samedi, c'est le festival Rootserg, donc appelez-nous, chers auditeurs, pour gagner des places au 05 65 49 29 94. Et on va se quitter sur un petit morceau de Vadel. À bientôt!
A drama queen lives her life and cuts it in scenes. She's the most irresistible drama queen. She walks and she smiles, but she stays so keen. She lives in a lie, if you know what I mean. So put your heads down, we did it before. Heads down, back to the status quo. Heads down, you wouldn't believe. It takes as long as a heartbeat, and it will break as fast as a heartbeat. A drama queen makes her way in her dreams. She's the most incredible drama queen. She runs and she cries, but she stays so keen. She dwells by the yellow submarine. So put your heads down, we did it before. Heads down, back to the status quo. Heads down, you wouldn't believe. It takes as long as a heartbeat, and it will break as fast as a heartbeat. And she's fading away, but she will not stay. And she's fading away, but she will not stay. But she is.